Un régime qui se maille au café oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Oui, c'est une diplomatie au café oriental. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de ce président, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. Le directeur général de la Direction Générale des Douanes et Assises des GDA a dénoncé la fraude douanière à grande échelle au poste frontalier des Mahagi à 175 km au nord de Bounia en Ituri. Selon Deo Guiza, l'entreprise Indenieria et Innovation est basée en Ituri, fait entrer des forces des camions qui perdent des carburants importés de l'étranger sans rien payer à l'État. Des accusations qui rejettent le responsable de l'entreprise incriminé qui demanda à la DGDA de mener des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Cette affaire relance donc le débat sur la problématique de l'efficacité des mécanismes mis en place pour lutter contre la fraude douanière en RDC. Qu'en pensez-vous et quels sont les préalables pour y arriver? Rejoignez-nous au 081 890 7315 pour intervenir en direct. Le débat, c'est également sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Julie César est au standard et réalisation de cette émission mise en onde par Jean-Claude Michala. J'aurai la main pour la présence sous la supervision de Julien Yamouni, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et Amélie.
La semaine dernière, le directeur général de la Direction Générale des Douanes et Assises des GDA a dénoncé la fraude douanière à grande échelle, comme je venais de le dire tout à l'heure, au poste frontalier de Mahagi, à 175 km de Bounia. Mais l'entreprise incriminée dans cette fraude douanière rejette les accusations de la DGDA, estimant que l'entreprise n'a jamais importé les carburants et demande donc à la DGDA de mener des enquêtes approfondies pour savoir qu'est-ce qui s'est passé au juste. Mais le dossier de la fraude douanière revient encore sur la table d'un parole aux auditeurs. Quels sont les mécanismes efficaces qu'il faudrait-il mettre en place pour lutter contre la fraude douanière? Quels sont les préalables pour y arriver? La question au centre de notre échange. Rappelons quand même qu'avec 2 345 410 km², la République démocratique du Congo est un sous-continent avec de kilomètres parfois trop poreuses au niveau de ses frontières. Beaucoup de difficultés pour contrôler l'entrée et la sortie de marchandises. Alors, dans cette configuration, de quelle manière on peut arriver à lutter efficacement contre la fraude douanière? Vous êtes nombreux à vouloir intervenir dans cet échange. Rejoignez-nous en direct au 081-890-6315. Mais n'oubliez pas que le débat, c'est aussi sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Mais en direct à Kinshasa, Félicien, vous êtes avec nous. Merci de nous avoir contactés. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Et nous avons plusieurs fois évoqué la question de la fraude au niveau des douanes. On s'est rappelé qu'il n'y a pas longtemps, le ministre de l'Économie nationale avait aussi dénoncé la fraude douanière au niveau du poste frontalier des loups pour entre Kinshasa, le Bas-Congo et l'Angola, estimant que des millions de dollars échappaient au trésor public à cause des postes frontaliers. Et maintenant, on parle des Mahagi. Ça peut être évoqué aussi ailleurs, dans d'autres provinces. Mais d'une manière globale, qu'est-ce qui doit être fait pour arriver vraiment à maîtriser ces frontières et surtout ces échanges au niveau des postes frontaliers en termes de, bien sûr, de douane et contrôle?
Merci Pierrot pour votre question, mais c'est pas une nouveauté, la fraude douanière dans ce pays. Je ne sais pas pourquoi on doit continuer à en parler, parce qu'elle se passe au-dessus de tout le monde, de toutes les autorités, c'est connu. Et quand vous voyez les trains de vie des douaniers et les salaires qui leur est alloué, je veux comprendre qu'on peut encore parler des fraudes douanières dans ce pays. Moi, je pense que celui-là, si on en parle, c'est parce que il n'a pas voulu coopérer, c'est parce qu'il n'a pas voulu négocier avec la douane, mais la douane ici chez nous, c'est officiel. Donc on peut frauder, on peut faire comme on peut, et c'est ça. Et vous connaissez que le devoir que connaît l'Office congolais de contrôle, c'est à cause de ça, parce que l'Office congolais de contrôle, à un moment donné, dénonce un peu cela, parce que quand on compare les valeurs que l'OCDE détermine, les valeurs que la douane est en train d'utiliser, c'est vraiment un écart important. Et c'est pourquoi on cherche à tout prix que cette entreprise-là disparaisse, donc l'Office congolais de contrôle. C'est parce qu'il combat cette situation. Donc chez nous, nous ne pouvons plus parler de la force douanière. Nous devons combattre les anti-valeurs dans lesquelles se trouve la force douanière, la corruption dans ce pays, et tout ce qui est en train de détruire la bonne marche de la gestion de la République. Parler de la force douanière, c'est comme si c'était quelque chose qui vient d'arriver de net et qui doit étonner les gens, alors que c'est la vie de tous les jours. C'est ça qui m'étonne.
Alors pour vous, Félicien, vous estimez que la lutte contre la fraude douanière doit être inscrite dans la lutte globale contre les antivaleurs dans le pays. Ce n'est pas seulement un cas isolé, la situation au niveau de la douane.
Oui, ce n'est pas un cas isolé, parce que ça, c'est connu de tout le monde. Et vous êtes douanier, vous pouvez vous enrichir illicitement avec l'argent du trésor public, parce que vous êtes douanier, vous pouvez construire des immeubles, vous pouvez avoir tout ce que vous pouvez avoir, ou bien aussi de tout le monde, on n'a jamais été poursuivi, alors qu'il y a toutes les institutions ici qui peuvent demander à tel, à tel autre, comment tu arrives à avoir cette richesse-là. On n'a jamais demandé ça, on ne demande pas ça dans ce pays. Et vous voyez combien la douane produit. Qu'est-ce que ça donne vraiment dans le budget national, et c'est pas ce que ça devrait donner. Mais nous avons la douane la plus chère au monde. Donc l'argent c'est pour les poches des douaniers, et c'est ça que nous vivons dans ce pays. On doit chercher la solution, et vraiment une solution durable, et on doit chercher les causes, on doit aller à la source pour savoir pourquoi nous fonctionnons de cette façon-là. Pas des cas isolés, parce que tel n'a pas voulu négocier, parce que tel n'a pas voulu coopérer, alors qu'on va dire non, il y a telle faute. Nous avons des difficultés et nous devons trouver des solutions durables. Moi, je pense qu'avec la République qui s'annonce, les choses seront plus claires.
Alors, pour vous, vous estimez, Félicien, qu'il faudrait aborder cette question dans une réponse totale du système, avec la République qui s'annonce, c'est ce que vous avez dit, et vous estimez que c'est de cette façon qu'on peut arriver à combattre les antivaleurs, et c'est de cette façon qu'on peut résoudre cette question, parce que la fraude dénoncée à Mahagi, ce n'est pas un cas isolé, c'est un problème des antivaleurs qui mine notre société. Merci beaucoup. Félicien Trésor, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour Trésor.
Bonjour Monsieur Perrault, je salue tous les auditeurs de la radio Okapi.
Et d'une manière plus efficace, comment on peut combattre la fraude douanière dans notre pays?
Oui, moi je commencerai d'abord par rapport au cas si précis dénoncé par les DG de la DGDA. Au moins les féliciter par rapport à ce qu'il a fait. Mais sinon, je regrette tout simplement par rapport au temps. Parce que depuis que ces cas de fraude douanière se commettent à la République démocratique du Congo, il a pris tellement de temps pour les parler aujourd'hui. Parce que même, vous allez voir, pas plus tard, les chefs de l'État, dans un des communiqués de la présidence, qui est arrivé au moins à dénoncer cette histoire, parce que on arrivait au moins à utiliser les noms du président de la République pour faire passer certaines marchandises dans des frontières de la RDC. Et tout ça, c'est un problème qui sont dénoncés déjà depuis très longtemps. Mais ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que dès qu'on dénonce comme ça, c'est à chaque service de faire son travail, parce que il y a des services, par exemple des répressions ou des poursuites également, qui doivent se mettre au travail pour permettre à ce que ces gens qui, au moins à dénoncer comme ça, ces gens qui sont accusés, qu'on arrive à les poursuivre, parce qu'on ne peut pas au moins arriver aujourd'hui à dénoncer et ces gens ne sont pas poursuivis. Parce que vous allez voir que les cas des Mahagi, comme on l'a dit, ce n'est pas seulement Mahagi. Il y a Arou également qui pose un problème, il y a également Kasumbalesa, il y a même tout proche ici chez nous à Lufu, qui a implication des autorités politicaux, sécuritaires, de sécurité, tout ça qui sont impliqués là-dedans et qui font passer des choses sans que personne au moins ne les arrête. Mais ces gens, est-ce qu'il y a au moins l'ouverture des enquêtes judiciaires qui sont ouvertes pour permettre à ce que ces gens soient poursuivis et dans la mesure des possibles qu'ils soient arrêtés? Alors, c'est ce qui pose un problème. Mmh. Alors, arriver aujourd'hui à penser que on ne peut qu'arriver à dénoncer sans que ça soit, au moins qu'il y ait des poursuites qui soient organisées, ça n'a pas de sens. Et depuis qu'on a dénoncé, et moi je peut-être, je ne sais pas, peut-être je ne suis pas bien informé, qu'il y a déjà peut-être des commissions, au moins d'enquêtes qui sont descendues au niveau du Haro, parce qu'on a dénoncé des entreprises qui sont à bout, mais bien connues, parce que les enquêtes pouvaient commencer par là. Alors, je ne sais pas, selon moi, peut-être je n'ai pas trop d'informations pour savoir au moins s'il y a déjà une commission d'enquête qui est descendu sur ce terrain pour s'imprégner au moins de la situation et connaître les vrais auteurs. Mmh. Alors, si on commence déjà au moins à sanctionner les vrais auteurs, ça va servir d'exemple et ça va permettre à ce que, dans d'autres endroits, qu'on ne puisse pas se limiter seulement à Roumain, aller dans toutes les frontières là où ces fraudes se commettent. C'est ce qui était moi ma réflexion par rapport
à... Mais Trésor, rappelons quand même que les deux entreprises citées dans la dénonciation de GDA avaient rejeté les accusations, estimant que les entreprises disaient qu'ils n'ont jamais importé ces produits, les carburants, et demandaient par contre à la DGDA de pouvoir mener des enquêtes pour tirer l'affaire au clair. Mais vous dites que le fait d'avoir dénoncé, c'est bien, mais le grand problème aujourd'hui, c'est la poursuite des enquêtes, mais aussi la lutte contre qu'on puisse engager des poursuites judiciaires. Mais vous avez dit, par exemple, que ce soit à Soumbalé, Saharo ou à Loukou, qu'il y a des gens qui occupent des postes de responsabilité qui sont de fois impliqués dans la transaction, dans l'importation des marchandises sans pouvoir les déclarer à la douane. Félicien, on le disait tout à l'heure. Pensez-vous que ceux qui vous accusez d'être impliqués peuvent être jugés partis? Est-ce qu'on peut arriver à combattre la fraude si soi-même on est impliqué dans ces transactions? Est-ce que les processus judiciaires peuvent réussir au cas où on se retrouve soi-même engagé dans ces trafics trésors?
Oui, moi je pense que c'est bien parce que aujourd'hui, ces entreprises ont droit de dire que nous ne savons rien, nous déclarons au moins nos marchandises, nous payons normalement nos douanes. Mais ce que vous venez au moins de dire récemment, c'est quoi? C'est que les autorités qui sont censées aujourd'hui mener ces enquêtes, parce que c'est pourquoi je vous ai dit, je ne suis pas informé que s'il y a des enquêtes également qui sont menées sur place. Alors, c'est tout un problème aujourd'hui de voir que ces autorités qui sont au moins, qui occupent des grands postes et des responsabilités dans notre pays, c'est pourquoi même je dis à la fin que le Congo, maire, la République démocratique du Congo, est en train de mourir pour cause de ses dirigeants. Parce que ceux qui ont des postes et des responsabilités là, qui sont censés au moins de mener des enquêtes, qui sont censés au moins arrêter, ce sont eux-mêmes qui sont impliqués là-dedans. C'est ce qui pose un problème, parce qu'on ne saura pas au moins savoir à quoi est-ce que les enquêtes peuvent aboutir, parce que déjà les points de départ, c'est ça les
points d'arrivée. Voilà, c'est un peu ça. C'est pourquoi Félicien a évoqué tout à l'heure le trafic d'influence, et dans ces conditions, ça sera difficile qu'on lutte efficacement contre la fraude douanière. Merci beaucoup, Trésor. Jean-Pierre, vous êtes à Ouamba, dans la province de Haute-Uele. Bonjour, Jean-Pierre. Jean-Pierre, vous êtes avec nous, bonjour. On a des petits soucis de ligne avec Jean-Pierre, mais nous avons aussi en ligne Urbain Ilunga, vous êtes analyste économique urbain, vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Urbain Ilunga, bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur Ferrer, je vous remercie.
Voilà, vous avez suivi les uns et les autres la problématique pour nous aujourd'hui, c'est comment se pencher d'une manière plus efficace pour lutter contre la fraude douanière. On sait que la fraude douanière occasionne sérieusement autant de millions qui échappent au trésor public. Alors, quels sont les préalables aujourd'hui dans notre pays pour arriver vraiment à avoir la maîtrise de la douane, surtout dans ces différents postes frontaliers, comme dénoncé dans cette émission?
Merci beaucoup, Monsieur Pierrot, pour la parole. Avant tout, je présente mes regrets pour ce fléau qui fait échapper beaucoup de ressources à la République. Je rappelle que la fraude douanière est un des fléaux vraiment qui occasionne les manques à gagner à la République. Mais c'est un problème, c'est un problème qui n'est pas isolé. Comprenez que c'est un problème qui fait partie du problème du système. Donc c'est les problèmes du système avant tout lui-même, les problèmes du système dans l'entièreté. D'abord, je félicite le DG de la DGDA qui est allé quand même faire son travail, il a dénoncé. Je pense qu'il n'est pas aussi les premiers à dénoncer. L'autre fois même, le ministre de l'économie a dénoncé, a interpellé quelques-uns. Mais le problème n'est pas seulement dénoncer, c'est bien, mais les problèmes, c'est la complaisance. Les problèmes, c'est l'impunité. Les problèmes, c'est le trafic d'influence. Les problèmes, c'est en fait, c'est au niveau de la défaillance de l'État, c'est le manque de leadership. C'est le manque de leadership qui fait que la même personne en fragilance n'est pas sanctionnée et reviendra pour les mêmes actes ou peut-être on peut le tirer dans cette entreprise-là, sur ces postes-là, mais pour le mettre dans un autre poste ou dans une autre entreprise. Et donc, le système s'auto-entretient comme ça et nous ne saurons jamais éradiquer le problème de fraude fiscale ou de fraude douanière de cette façon-là. Je pense qu'il faut aborder le système aussi dans sa globalité. Moi, je pense qu'il faut aborder le système dans sa globalité. Mais s'il faut parler un peu en termes pratiques, en termes particuliers, je dirais que pour la question, le DG de la DGDA, à interpeller, à essayer de faire cette découverte, mais il faudra maintenant une enquête. Et après cette enquête, il faut une poursuite. Il faut une poursuite, parce que lorsqu'il n'y a pas de poursuite, c'est le même problème, c'est le même travail que fait aussi le Zolobambi. Des gens qui sont arrêtés, on arrête quelqu'un le matin à 8h, à 12h, il est libéré, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien, absolument rien. Parce qu'il y a l'implication, il y a un peu la collaboration un peu de membres du système, des acteurs du système. Ils sont complices. C'est la complicité qu'il y a. En fait, tout le monde est impliqué. On peut arrêter quelqu'un aujourd'hui, mais il ne mange pas seul. Il ne bouffe pas seul.
Rappelons parce que nous avons évoqué les cas Zolobambi, les conseils spéciaux du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption, répression des crimes et blanchissement de capitaux. Il a plusieurs fois crié sur l'étoile du monde qu'il y a autant d'argent qui échappait au trésor public à cause de détournement, de mésestions. Mais bon, ces dossiers, on a crié aussi la parole aux auditeurs pour savoir si on pourra un jour ou l'autre engager des poursuites judiciaires. Mais jusqu'à ce moment, je crois que beaucoup de choses n'ont pas pu évoluer. Alors vous mettez aussi ça dans la globalité du système. Et rappelons quand même qu'il y a eu de mécanismes mis en place par l'État en termes de gestion des guichets uniques pour pouvoir éviter que l'argent ne puisse échapper au fisc. Mais malgré tout ça, les problèmes se posent. Mais est-ce qu'on peut dire que la faiblesse aujourd'hui, c'est que le trafic d'influence a plus le dessus sur le mécanisme qui sont mis en place par l'État dans la lutte contre la fraude douanière?
Effectivement, le problème du trafic d'influence va au-dessus et prime. Le problème, c'est le problème de manque de leadership, de la complicité des uns des autres qui sont impliqués, mais aussi du trafic d'influence. C'est en fait, ça rime avec les trois autres. Ça rime avec les trois autres. Et nous ne saurons jamais. Le problème, par exemple, du guichet unique, tous ces mécanismes-là, ce sont des fantaisies. Et même le savent. Même les autorités le savent, sont des fantaisies, parce que ça, c'est fond de formalité. Mais au fond, en réalité, aujourd'hui, c'est, même si nous avons le faible budget, parmi le faible budget du monde, c'est parce qu'il y a 6 euros ici, il y a de l'argent qui manque au trésor public, on laisse échapper de ressources au trésor public.
Mmh. Alors, on va revenir à vous. Maître Adrien, vous êtes à Kananga, vous avez suivi Rubin et Lunga qui insistent sur la faiblesse de notre leadership, le système, qui a des ramifications qui font que même si on met en place des mécanismes aujourd'hui dans la lutte contre la fraude douanière, venir, mais dès lors qu'il y a le trafic d'influence et l'ensemble des mesures, ça ne peut pas aider à résoudre le problème. Quel est votre point de vue?
Mais j'ai de l'occasion que vous m'offrez. Je pense que je ne suis pas malheureusement d'accord avec Monsieur Rubin, parce que au jour d'aujourd'hui et avec cette actualité, il n'est pas question d'aller vite en besogne pour dire qu'il y a un problème de leadership. Premièrement, il faut d'abord commencer par saluer le courage qu'a réuni le numéro 1 de la DGDA pour dénoncer, c'est-à-dire lorsque quelqu'un parvient à dénoncer un fait, c'est-à-dire il en a marre. Moi, je pense qu'au lieu qu'on puisse s'attaquer au leadership, il serait mieux de s'attaquer d'abord à la justice. Parce que lorsque le monsieur fait une telle annonce, je pense qu'il y a le magistrat qui sont là, il y a des OPJ qui sont là à la recherche des infractions. Ils peuvent se saisir d'office pour ouvrir des actions disciplinaires. Lorsque la justice commencera à mener ses enquêtes, s'il y a maintenant des barricades, s'il y a des obstacles, c'est à ce moment-là qu'on peut maintenant crier au trafic d'influence, comme l'a dit M. l'invité, qu'on peut crier au manque de leadership, comme il a dit, mais dans un premier temps, on ne peut pas dire ça. Là, c'est de un. Deuxièmement, c'est vrai que vous avez raison de dire que ça ramène maintenant la question sur les différentes frontières. Mais moi, je pense que la première solution passe d'abord par le renforcement des contrôles. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, s'il y a un contrôle efficient, je pense que ça ne sera pas possible pour qu'on puisse assister à ce genre de choses. Et aussi, il ne faut pas aussi minimiser la réplique du responsable de cette entreprise lorsqu'il dit qu'il faut demander pour qu'on vous dise ce qui se passe. Peut-être il y a un paiement à partir de Kinshasa qui s'est déjà effectué et lui n'a pas voulu donner la lumière. C'est comme ça que toutes ces pistes-là devrait être d'abord analysé avant de dire quoi que ce soit. Maintenant, deuxième piste de solution. Il faut toujours dans nos frontières, il faut créer ce que j'ai toujours appelé une commission mixte. C'est-à-dire dans cette commission-là, on doit y retrouver les différents services. Parce que si on met un seul service, ce seul service-là peut être manipulé facilement. Mais s'il y a les différents services, ça sera vraiment compliqué pour qu'on puisse manipuler le premier, le deuxième, le troisième. Ça sera compliqué, ça sera aussi un moyen efficace de lutte contre cette fraude douanière. Troisièmement, quand je reviens maintenant sur le problème de la justice. Parce qu'il ne faut pas que nous soyons là pour attendre et subir les faits pour dire que non, voilà, l'exécutif fait ceci, l'exécutif nous donne des injonctions. Voilà, c'est mixte dans la justice, mais c'est là que la justice devrait aussi rassurer la population que nous, voilà, nous sommes le dernier rempart. Lorsqu'il y a un désordre au sein de la société, nous allons surgir pour mettre de l'ordre au lieu d'attendre, parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi je crains que peut-être le gouverneur, peut-être que le ministre puisse lever le ton pour voir la justice agir. À ce moment-là, nous, les activistes des droits de l'homme, nous allons encore monter au créneau pour dire que non, voilà comment est-ce que la justice est manipulée. C'est là que j'en appelle vraiment au bon sens de nos amis de la justice pour comprendre qu'il faut vraiment agir au lieu d'attendre qu'on puisse vous pousser pour agir. Enfin, Pierrot, je pense que le gouvernement doit essayer un peu de mettre de l'ordre dans ce que tout le monde est en train de déplorer, parce que c'est une situation qui est générale dans toutes nos frontières. Donc c'est une situation générale. Pendant que certaines personnes croient que c'est une situation normale, mais nous trouvons que c'est anormal. C'est là que le gouvernement doit jouer maintenant son rôle ou essayer de mettre en mouvement ce que j'ai toujours appelé le système de rotation, de mutation, de permutation. C'est-à-dire on ne peut pas voir seulement les mêmes personnes dans une frontière, dans un poste pendant autant d'années, de crainte qu'ils risquent de se familiariser, ils risquent de comprendre les systèmes. Et ils entrent ici, ils sortent par ici. Voilà ce que...
Merci, merci beaucoup, Maître Adrien. Vous avez relevé quatre points. D'abord, le rôle de la justice, le fait déjà d'avoir dénoncé, ça c'est ce qui a été fait par le DG de la DGDA, qui tout le monde a salué son courage, le fait d'avoir mis sur la place publique cette pratique. Il revient maintenant à la justice, aux OPJ de pouvoir saisir des dossiers, ouvrir des enquêtes. Et on ne peut pas déjà accuser les systèmes, vous l'avez dit en répondant à Urbain tout à l'heure, et sans d'abord attendre que la justice s'occupe du dossier. Et si on se rend compte qu'elle ne travaille pas librement, elle n'est pas en mesure de pouvoir évoluer dans ces conditions-là, on peut attaquer. Mais il y a aussi ce problème de commission mixte. Vous estimez qu'il y a des services qui doivent travailler ensemble. Il y en a quand même quatre qui sont autorisés à opérer au niveau des postes frontaliers. Et ça peut, l'un peut surveiller l'autre pour éviter que les gens ne tombent dans cette facilité de fraude. Et la justice doit rassurer la population qu'elle est le dernier rempart et le gouvernement qui doit mettre de mécanismes. Vous estimez que c'est l'ensemble de tout ça qui peut faire assez que les choses puissent évoluer. 0-14-1-890-6315 pour intervenir en direct dans ces magazines consacrés à la lutte contre la fraude douanière. Vous pouvez également continuer les débats sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale. Économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, inforoutes et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Capistoire.
Parole aux auditeurs.
Jean-Pierre, vous êtes à Kinzangouété dans le Congo central. Bonjour Jean-Pierre.
Bon, je ne suis pas Jean-Pierre, mais moi c'est M. Alpha.
Alpha, vous êtes à Kinzangouété, c'est ça?
Non, je suis à Bumba, à l'Équateur.
Oui, Alpha, vous êtes à Bumba, à l'Équateur. On vous écoute.
Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Ok, on va revenir à vous, Alpha, on va revenir à vous. Apparemment, il y a eu des petits soucis avec vous au niveau de la réalisation. On va revenir à Alpha tout à l'heure. Je rappelle encore que vous pouvez également intervenir dans ces magazines au 081-890-6315 pour intervenir en direct. Je révélais tout à l'heure pour dire quand même qu'au niveau du code des douanes, la loi fixe de quelle manière tout doit être fait, comment les marchandises doivent être déclarées et qui sont les personnes qui doivent être impliquées dans les traitements des dossiers pour éviter que cela ne puisse échapper totalement au fisc. Mais rappelons quand même que la loi elle-même autorise à la DGDA de mettre à la disposition du public les enseignements utiles qui doivent être utilisés pour relatifs à la législation douanière, et chaque personne qui a besoin de ces informations doit les avoir, et cela peut facilement aider la population à comprendre les mécanismes et à éviter que les uns et les autres ne puissent recourir à des chemins détournés pour résoudre cette question. Mais alors, comment y arriver? Plusieurs intervenants sont revenus au niveau de poursuites qui doivent être engagées chaque fois qu'un cas est dénoncé. Alors, Urbain et Ilunga, vous êtes encore avec nous, je crois.
Je suis avec M. Pierrot.
Alors, vous avez suivi tout à l'heure Adrien Descanes qui a insisté sur le rôle de la justice en estimant que c'est le dernier rempart. Quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, la justice devrait en principe saisir des gens, des dossiers pour pouvoir faire son travail, accompagner d'une manière efficace ce qui doit être fait quand on a déjà dénoncé.
Bon, exactement, je suis l'intervenant. Je pense qu'il m'a pas bien fait. Du tout au début, j'avais encouragé l'action du DG de la DGDA. Je ne l'ai pas minimisé. Et ensuite, j'ai dit que c'est bien de dénoncer, mais le vrai problème devra être la suite. Le vrai problème, c'est dans la suite, c'est que on ne devrait pas se retrouver dans la complaisance. La complaisance annulerait totalement l'action, la première action, c'est celle de dénoncer. Voilà, la complaisance, l'impunité, donc le manque de punition effective et donc le manque de leadership. Et maintenant, il parle de la justice. Je suis d'accord avec lui que la justice est le dernier rempart, devrait être le dernier rempart, malheureusement ne l'est pas dans notre pays. Parce que notre justice n'est pas indépendante, vous le savez. En tout cas, ce n'est pas une question politique, mais je fais appel un peu à une notion un peu aussi, à une dose politique, qui, parce que le politique vraiment est central. Donc, je pense que notre politique, notre justice n'est pas indépendante. C'est une justice utilisée vraiment par les politiques, les secteurs politiques. Et si on avait un service de la justice digne de soi, je crois que l'intervenant aurait raison. Mais j'estime que c'est vraiment un problème à traiter avec beaucoup de délicatesse, parce que je rappelle ici que nous sommes une économie totalement extravertie, où dans laquelle tout ce qui est produit est rapatrié, est exporté, et tout ce qui est consommé est importé. Donc la source, le douane représente une grande source de ressources pour notre pays. Et si ce fléau doit continuer, nous aurons le budget que nous avons aujourd'hui, nous aurons la situation que nous avons aujourd'hui, nous aurons le problème que nous avons aujourd'hui.
Et si vous avez dit c'est important, Urbain, vous estimez que la complaisance annule la première action qui est celle d'avoir dénoncé. On a dénoncé et tant on ne sait pas punir, c'est qu'on a annulé la première action dans une économie comme la nôtre, la douane et la fiscalité. Et bien sûr, la douane reste la source principale de revenus. Mais dès lors qu'il y a la complaisance dans les traitements des dossiers comme celui des fraudes, ça sera difficile. On vous garde en ligne le temps d'écouter parce que vous avez parlé d'un peu de dose politique dans ces débats. On écoute un politique. Alors, honorable John Kinazabo, vous êtes avec nous de Bounia dans la province d'Ituri. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et la dénonciation est partie bien sûr de la province de l'Ituri, on a parlé de Mahagio, où la DGB a dénoncé bien sûr cette fraude douanière. Alors d'une manière plus efficace, vous qui êtes député national, comment on peut arriver à mettre en place des mécanismes qui puissent permettre à ce que l'État entre dans ses droits en termes de recettes de douane, sans que cela se retrouve bien sûr, soit entre les poches des individus, ou soit carrément, quoi qu'on dit, des entreprises font entrer la marchandise de force sans pouvoir payer. Comment on peut arriver à mettre des mécanismes efficaces en place?
Monsieur Pierrot, je comprends votre précipitation. Vous me demandez des mécanismes à mettre sur le pied rapidement, parce que vous gérez le temps, vous êtes à la radio. Mais tout ce que je voulais vous dire d'entrée de jeu, c'est que les systèmes de pillage ou de fraude qu'on observe aujourd'hui à l'Ituri, si c'est une nouvelle province, vous inquiète. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous savez que depuis des années, cela a été dénoncé. Il y a une entreprise ici qui s'appelle IDI, qui bénéficie de la couverture au niveau des Kinshasa. Certaines personnes disent même que c'est une entreprise familiale qui a des liens avec des hautes autorités de ce pays. Je ne voudrais pas citer les gens ici. Pour des raisons évidentes.
C'est mieux, oui.
Mais ce qui est vrai, c'est que on a remarqué sur le terrain que lorsqu'on fait entrer le carburant, il s'est fait créer un réseau, n'est-ce pas, béni par cette entreprise, qui fait entrer le carburant avec des manques à gagner, donc vous avez le chiffre. La DGDA a évoqué le chiffre de 21 millions de dollars. Vous savez que 21 millions de dollars, c'est le dixième du budget de José Makila à l'Équateur. Donc, avant de commencer le projet de Ituri, comment est-ce que vous allez pas survivre sans moyens? Que les auditeurs de radio qui ne connaissent pas l'Ituri sachent que l'Ituri n'a pas de route, n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité. Nous n'avons rien. Nous pouvons faire compter sur nos recettes. Voilà, aujourd'hui, il est attesté qu'il y a une entreprise qui entretient un réseau mafieux qui fait entrer du carburant frauduleusement et en train de m'entraîner, ça c'est au niveau seulement de la DGDA. Voyons d'autres services, voyons le FONER, voyons les autres services, le Transcom, etc., etc., bénéficier aussi de petites recettes liées à ces importations. Vous imaginez qu'aujourd'hui, même un pont qui est à 16 km de Bounia va s'écrouler d'ici quelques matins. Et le gouverneur se plaint, il dit, il n'a pas d'argent, le FONER ne donne pas d'argent. Voilà, c'est pas nous, en tant qu'élus du peuple. Nous crions à ce scandale, nous dénonçons cela aux côtés de la DGDA, mais cela ne suffit pas. Nous disons qu'il y a quand même l'État qui en a. Il y a le gouvernement provincial. Et M. Pierrot, à notre grande surprise, le gouverneur de province n'a jamais dénoncé ce cas. Bon, je comprends peut-être qu'on a mis l'Ituri dans un état d'ingouvernabilité, parce que pour votre information, l'Ituri n'a pas de gouvernement jusqu'à aujourd'hui. À partir de plusieurs sessions, jusque ce matin, il n'y a pas de gouvernement investi, c'est-à-dire sur le plan constitutionnel. Les membres du gouvernement ont été nommés, mais le gouverneur dirige seul, depuis tout ce temps, depuis plusieurs mois. Pendant qu'ailleurs, nous avons des gouvernements, etc.
Honorable, comment c'est important ce que vous avez dit
sur le débat, parce que l'autorité provinciale devrait prendre position de manière ferme pour arrêter cette hémorragie parce que ça se tourne sous ses yeux et
son nez. Alors, parce que vous avez dit, ça a été dénoncé par la DGDA, c'est quand même l'autorité attitrée, mais alors, quelles sont pour vous les actions qui peuvent être menées? Parce que l'entreprise elle-même, Radio Capi, dans le reportage de Radio Capi, disait qu'elle ne reconnaissait pas cela et demandait à la DGDA de pouvoir diligenter des enquêtes. En tant qu'élu, député national, pensez-vous qu'aujourd'hui, qu'il y ait quand même moyen de marteler sur ce dossier, que des enquêtes soient menées pour qu'on ne puisse pas rester, entre guillemets, dans les spéculations et que les responsabilités soit établie au-delà de la protection des uns et des autres qu'on ne peut pas citer dans l'émission ou bien qui peuvent être soupçonnés pour de créer des enquêtes officielles. Est-ce que pensez-vous que cette démarche, vous en tant que député national, vous pouvez la mener au niveau du gouvernement central?
Nous l'avons menée, M. Guéraud, respectant le procédure du pouvoir législatif. Nous en avons un en province. N'est-ce pas, qui contrôle de manière la plus proche le fonctionnement des services au niveau local. Par la DGDA, il peut être contrôlé par l'Assemblée provinciale. Mais, M. Pierrot, remarquez que cette Assemblée est mise dans un état de non-fonctionnalité par déjà des législateurs. Et là, j'appuie toujours le ministre Bochard. Je vais continuer même devant le président de l'Assemblée nationale parce qu'il pose des actes reprochables par notre constitution. Et ça, c'est inacceptable. Alors, ça, c'est une parenthèse, mais je vais vous dire que la balle est lancée dans les camps de l'éducation. Donc, il joue le rôle de contrôle et qu'il s'assume. La balle est lancée dans les camps du parquet de la justice à l'Ituri. Il y en a une. C'est un pouvoir. Pourquoi il n'existe plus le rôle? Quand les gens fraudent, la justice peut se saisir. Ce dossier-là, est-ce qu'il faut aller au Parlement pour en débattre pour la fin? Non. C'est lorsqu'on dénonce, M. Pierrot, qu'est-ce que fait le procureur de Bounia et tous les juges, tous ces magistrats? Ils font quoi? Voilà le problème dans notre pays et nous disons que tant que cette complaisance, cette complicité doit être aménagée du sommet jusqu'au niveau de la base. Nous ne serons rien de plus. On continue à souffrir. Nous sommes pauvres. Voilà.
Merci beaucoup, honorable. Ce que vous avez dit, c'est important. Vous avez dit la balle est lancée dans le camp de députés nationaux, de la justice, parce que la DGDA a fait son travail à dénoncer. Et vous avez dénoncé. Plusieurs personnes sont revenues pour cette situation de Mahagi. Rappelons quand même que le ministre de l'économie nationale, Issa Kikasa, a dénoncé aussi la fraude au niveau des postes frontaliers des Loufous. Et vous estimez qu'il y a la justice qui doit accompagner l'action des uns et des autres, comme le disait tout à l'heure notre ami Adrien, qui c'est les derniers remparts. Mais la situation rend la province du Sud aujourd'hui en difficulté, 21 millions de dollars dénoncés quand même. Et ça, pour le trésor public, c'est beaucoup d'argent, ce qui peut permettre à ce que la province puisse fonctionner. Merci beaucoup, honorable John Tinanzabo, pour ces témoignages. Nous restons à Abounia avec Jérôme. Jérôme, bonjour.
Ah, bonjour, Jérôme.
Vous
en fait, il faut d'abord rappeler que le régime financier, d'une manière générale, doit répondre aux assignations qui permettent ces assignations-là au gouvernement de voir les plafonds de recettes internes afin de planifier ses activités dans les budgets. Et puis, de deux, les textes en précis en matière de recouvrement des recettes sont très contraignants. Même le ministre de Justice, Sortal Zolobandi, à l'époque, avait pris un arrêté interdisant aux autres services d'interférer dans ce secteur afin d'éviter les pratiques de fiance. Mais pour revenir, pour dire ce qui s'est passé du côté des mailles, les véhicules ne sont pas arrivés un matin et passés directement, non. Les véhicules sont arrivés et les véhicules ont été immobilisés. Il y a autant de véhicules que possible, plus de véhicules qui sont au niveau de la frontière, plus de 3-4 jours. Et la DGDA a pris des dispositions, il y a même eu les éléments de police qui gardent ce véhicule-là, afin qu'on puisse voir dans ces dossiers s'il y a trafic de fiat ou si l'entreprise est exonérée ou pas. Mais après une journée, il y a le groupe d'hommes qui s'organise, on part, on va casser toutes les barrières et le véhicule passe. Personne des autorités ne va se déranger pour essayer d'intercepter ces véhicules à court des routes dans les trajets Bounia-Mahadi, parce que ce flic de 254 km. Est-ce que vous êtes vraiment rassuré? Vous trouverez cette distance-là. Le véhicule quitte au-delà de 254 km, atteint Bounia avec des barrières de l'État cassées, et ensuite, il n'y a même pas une force qui va intercepter ce véhicule en route pour dire voilà, vous avez cassé de l'autre côté, on vous immobilise pour établir la responsabilité. Non. Tout s'est passé dans une circonstance où que personne n'était à ce jour de comprendre comment le véhicule a traversé la frontière et pour entrer à Bounia suite par après commencer à réclamer qu'il ait la quête indépendante, tout ça. Non. Moi, je ne sais pas que là, ce sont des distractions. Nous avions dû intervenir dans une émission à l'époque où il y avait le prix, la réclamation par le ministre de l'économie, et que le prix fixé par le ministère sur le produit pétrolier à Bounia, c'était plus élevé, le prix des ministères était plus élevé, et que le prix des carburants à la pompe ici à Bounia. Vous m'aviez posé la question à l'époque, et si ces carburants étaient de bonne qualité? Moi, je disais oui, c'est tout ça parce que c'était de bonne qualité. Mais aujourd'hui, nous trouvons la réponse est que la plupart des quantités de carburants portées à Bounia entrent par des voies mature. Parce que c'est la question de l'époque qui a trouvé sa réponse aujourd'hui. Je pense qu'à un certain niveau, il faudrait assouplir les services de l'État de telle façon que ceux qui travaillent pour les comptes de l'État aient l'envie de le faire, tout en sachant qu'ils sont protégés par des textes. Parce que vous sensibilisez les textes aux contribuables. Vous leur montrez le danger, vous leur parlez de pénalité, vous leur parlez de tout et rien, tout en sachant qu'il y a l'État. Vous, à un moment donné, vous allez vous retirer pour laisser à l'État de frapper pour que les contribuables reviennent à la normale. Mais lorsque les contribuables se permettent de casser la barrière de l'État et que le véhicule atteigne Bounia après une ou deux semaines, on continue seulement à parler à la radio et que sur le terrain, il n'y a pas des actions concrètes, c'est homme. Et qui est très très étonnant, vous trouverez dans ces dossiers, même le premier ministre, dans les FOICA et dans tout, il ne se prononce même pas. Et pourtant, le budget de l'État, c'est son programme, c'est le programme de son gouvernement.
Et ce que disait tout à l'heure.
De ce programme, de ce.
Oui, et ce que disait tout à l'heure notre ami Urbain Ilunga, qui insistait beaucoup sur notre budget qui ne peut dépendre de ces recettes. Et là, cette flagrance, vous l'avez dit, Jérôme, qu'on casse la barrière, que les camions se retrouvent jusqu'à Bounia, 250 km, et personne ne pose la question. quand même, c'est très inquiétant, et vous estimez que chacun doit jouer son rôle. Mais du moins, quand même, le fait d'en parler à la radio, vous l'avez dit, ça permet quand même aux uns aux autres de pouvoir dégager des pistes et des solutions, mais aussi de réclamer, comme vous l'avez dit, plusieurs personnes ont réclamé ces enquêtes. Et là, vous avez interpellé le Premier ministre, hein, qui ne dépend que de ses recettes, qui puisse se saisir de ces dossiers. Et pourquoi aussi, l'honorable Tenant Zabou a insisté beaucoup sur le rôle de la justice, de toutes les autorités autour de cette question de fraude, après que la DGDA ait fait le travail d'avoir dénoncé. Merci beaucoup, Jérôme. Josephine, vous êtes à Boston. Merci de nous avoir contactés. Pour vous, qu'est-ce qui peut être fait dans ces débats autour de la lutte contre la fraude douanière? Bonjour et bienvenue.
Merci beaucoup Radio Capi, hein. C'est Madame Joséphine à Boston. D'emblée, je vais dire ceci. Vous savez, le problème de la douane, hein, au Congo, ça fait perdre beaucoup d'argent au gouvernement congolais. Ce que le gouvernement congolais doit faire d'emblée, c'est construire des routes. Je ne demande pas au gouvernement de construire des routes, toutes les routes. Non, quand même. Dans de postes douanières, hein, dans toutes les postes douanières, il doit y avoir des routes. Même une route de 50 km à chaque poste douanière. Parce que souvent, le commerçant ne prenne pas la route qui est à la poste douanière. Ils prennent des routes dans là où il n'y a pas la route. Hein, parce que la route des postes douanières est confondue de routes qui sont un peu loin, 5-10 km de la poste douanière. Si on construit une route, tout le monde viendra pour utiliser d'abord la route pour entrer. La route, c'est facile. Et puis, deuxième problème, c'est améliorer les salaires des douaniers. Mes chers amis, un douanier qui touche 200 dollars, qui fait entrer une marchandise de 50 000 dollars, hein, et puis on lui propose une corruption de 5 000 dollars. Il va prendre. Mm-hmm. Vous savez, il n'y a pas une école. Être douanier, on ne va pas à l'école pour être douanier. Ce sont on termine le sixième des humanités ou bien l'université. On vous forme pour être douanier. Ce n'est pas comme être docteur en médecine, là où vous dépensez beaucoup d'argent. Tout le monde, n'importe qui peut être douanier. Donc, on peut prendre des jeunes gens qui viennent même de secondaire, qui terminent, on les forme pour être douanier. Il n'y a pas de douanier au Congo. Vous trouvez à la poste frontalière 1, 2, 3 douaniers qui vivent par exemple le Kasumbalesa. Tous les douaniers vivent à Lubumbashi. Ils doivent venir. Pourquoi ne pas construire un quartier douanier là-bas? Ils sont là-bas, on les change tout le temps, une année, 2 ans après. Construisez les routes, payez bien les douaniers. Il faut qu'ils restent à la poste, qu'ils restent aux alentours, 1 km, 2 km de la poste douanière. Moi, c'est ça que je vais donner. Quand on doit, et puis il faut être patriote. Le Congo n'est pas patriotique. Un Congolais, il n'aime pas le Congo. Pourquoi? C'est à cause de nos dirigeants. Nos dirigeants ne donnent pas l'exemple. Quand vous arrivez au Congo, vous sentez déjà qu'il y a une injustice de revenu. Le revenu est mal partagé.
Mm-hmm.
Et le revenu est mal partagé. En tout cas, il faut qu'on crée le patriotisme. Et le patriotisme, ça, c'est quand on abolit la corruption. C'est quand on partage les salaires équitablement à chacun du patriote, à chacun de nous. Merci beaucoup. C'est ça mon
appel. Merci beaucoup, madame. Vous avez d'abord estimé que tous les postes douaniers au niveau des frontières, on doit avoir vraiment des routes bien construites qui vont obliger chaque personne à pouvoir passer par ces routes, et de cette façon, on peut canaliser l'entrée de marchandises. Il faut améliorer les conditions de travail des douaniers, ils doivent être mieux payés pour le mettre à l'abri de la corruption, mais pourquoi pas aussi avoir des quartiers au niveau de tous ces postes frontaliers où ces douaniers doivent vivre avec leur famille dans de bonnes conditions, et faire des permutations ici chaque année. Mais au-delà de tout, il y a cette question du patriotisme, mais qui est aussi liée à la redistribution de richesses hein, d'une manière équitable. C'est de cette façon que les gens peuvent aimer leur pays, aimer de faire ce travail, éviter la fraude. Nous restons ici à Kinshasa avec M. Flory. Bonjour, bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Thierry.
Vous avez suivi les uns et les autres. La question va de conditions de travail, de patriotisme, de la lutte contre la, les antivaleurs, mais aussi le rôle de la justice, les trafics d'influence. Quel est votre point de vue par rapport à ce qui a été développé jusqu'alors par les différents compatriotes?
Tout à fait. Merci pour cette opportunité que vous m'offrez. Je crois que je prends à cœur et je me rallie à tous les avis de tous mes prédécesseurs. Néanmoins, autant que je sache, je crois que pour lutter contre ce fléau de la fraude au niveau des frontières, je pense que à l'époque, les services contre ce fléau avec d'une manière, c'était un peu traditionnellement, chaque service s'occupait de ce cas et puis chaque service terminait un peu à sa façon. Lutter contre ce fléau, mais à un certain moment, je crois que le gouvernement a mis sur pied une certaine organisation, une structure dite anti-opérationnelle qui œuvre, qui regroupe du moins tous les services habilités à œuvrer au niveau de toutes nos frontières. Et c'est justement pour combattre et combattre la tracasserie, l'anarchie, les désordres et surtout la fraude. Alors, il est dit que ces services travaillent dans la transparence la plus totale et dans la complémentarité complémentaire et dans le sens où ils doivent, n'est-ce pas, s'échanger. Ils doivent s'échanger ou échanger les informations. Et si un service est tombé sur un cas de fraude, parce que c'est un secteur multidimensionnel, la fraude, hein. Et il y a la fraude au niveau des prix, il y a des opérateurs économiques qui minorent les prix, qui minorent la quantité, qui minorent la valeur, comme je venais de dire. Et il y en a aussi qui vont jusqu'à faire ce que techniquement ce que nous disons la fausse dénomination, c'est-à-dire quoi, sur les documents nous trouvons une autre nature de produit et physique, nous faisons le contrôle chez nous, le contrôle physique par exemple, nous trouvons que c'est une autre marchandise, et tout cela c'est pour essayer un peu de jouer afin qu'ils puissent pas payer un peu plus. Et tout ça, ça crée l'évasion, n'est-ce pas, fiscale. Et c'est comme ça que cette mesure-là, cette organisation, l'ordre opérationnel, est en train de travailler, est en train de vrai. Certainement, il y a quand même des résultats positifs. Mais il faudrait renforcer, comme les autres l'ont dit, il faudrait renforcer. Moi, j'aurais souhaité qu'on renforce plus cette organisation, cette structure dite ordre opérationnel par des moyens de communication adéquats, par des matériels qu'il faut, de façon que ces services puissent communiquer facilement, de façon que ces services puissent communiquer aussi aux autres facilement. Et c'est comme ça que l'information peut vite se faire filtrer et à passer à l'acte.
Monsieur Flory, en regardant ce qui a été dit tout à l'heure, quand nous prenons les gars des Mahag qui a été dénoncé en termes de trafic de plans, pensez-vous que toutes les mesures qui peuvent être prises par le pouvoir public peuvent être plus efficaces dès lors qu'il n'y a pas de volonté en termes de lutte contre les trafics d'influence, lutte contre ces antivaleurs, comme le disait Félicien en début de mission? Est-ce que ça peut être efficace dès lors qu'il n'y a pas l'accompagnement avec une volonté politique dans la lutte contre les trafics d'influence?
Ce que nous voudrions, il faudrait plus de mesures, il faudrait plus de motivation, d'émulation sur les opérateurs qui œuvrent au sein de frontières, parce qu'ils sont exposés. Ils sont exposés à tout. Un commerçant peut venir, il peut leur graisser les pattes, il peut leur donner quelque chose, des pourboires. Et au moment où il n'a rien, comme la maman venait de dire, ben il est exposé, il va céder, il va pas bien travailler. Et donc le gouvernement doit certainement essayer un peu d'émuler, de donner des émulations, de beaucoup plus de motivation sur le plan matériel, financier, ainsi de suite, pour que ces gens qui sont au niveau des frontières travaillent avec conscience,
et avec beaucoup de force, et cela va donner quand même un résultat escompté. Mmh. Autrement, nous allons tourner à rond et on n'aura pas atteint l'objectif.
Et peut-être vous avez suivi quand nous avons lancé ces débats en parlant de la DGDA, le numéro 1 de la DGDA qui dénonce ici une fraude à Mahagi. Dernièrement, c'était le ministre de l'économie nationale qui dénonce à Loukou. Dès lors que la dénonciation s'est faite au niveau du sommet, c'est-à-dire des grandes responsabilités, alors quel pourrait être le rôle de la justice dans l'accompagnement de ces dénonciations? Parce qu'on sait souvent que ce sont les ONG qui dénoncent, mais là, ce sont les autorités de tutelle qui dénoncent la fraude. Mais d'un côté, on aurait souhaité voir la justice saisir des dossiers pour accompagner effectivement les actions menées par le pouvoir public.
La grande écriture est celle-là, M. parce que M. Pierrot, nous, quelque part là, nous voyons que les services sont limités. Les services font bien leur travail, ils font leur rapport et ils remettent à plus de droit, mais est-ce que ces rapports sont exploités, sont-ils réellement exploités? Est-ce que vraiment ils prennent à cœur tous les rapports que ces services qui œuvrent au sein de nos frontières transmettent à plus de droit? C'est ça la grande équation. Et pourtant, au niveau des frontières, nous avons tous les services. Il n'y a pas la DGDA, il y a la DGM, il y a la police, il y a tout cela. Et pourquoi pas prêter main forte à tous ces services pour que les rapports, une fois établis par ces services, puissent produire des effets conséquents. Vraiment, il faut renforcer. Il faut que tous les services se soutiennent et que l'opérateur économique qui arrive à la frontière sente qu'ici, il ne peut pas blaguer s'il va dans un autre service et que celui-là fait son rapport à son endroit, ça aura des effets, il va perdre parce qu'il y a des pénalités à payer, il va perdre plus. Et je crois que si on se soutient de cette façon, merci, ça va aller, ça marchera.
Merci beaucoup, M. Flory, pour ce témoignage. Vous avez rejoint à Urbain Ilunga qui parlait tout à l'heure de leadership. Il faut que la personne qui est en face sente qu'il y a un leadership au niveau de la frontière quand la personne arrive. Et de cette façon, on ne peut pas forcer la barrière, comme le disait Jérôme tout à l'heure à Mahagi, que quelqu'un avec une vingtaine de camions force la barrière et se retrouve à Bounia à 250 km sans que personne ne lui pose la question. Bintou, vous êtes à Kimpé. Bonjour, merci d'être avec nous dans cet échange, Bintou.
Merci beaucoup, bonjour, merci à tous les auditeurs. Et puis, pour intervenir concernant le problème de fraude douanière, M. Pierrot, la première chose, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut ajouter. Mais, il y a la conscience professionnelle des agents et de leurs chefs, des autorités impliquées dans cette filière. Si l'autorité montre l'exemple, en payant par exemple la douane, pour un véhicule qu'il a commandé pour son usage personnel, je ne pense pas que celui qui vient derrière lui pourra frauder demain. Puisque le petit peuple qui commande un petit véhicule, une petite voiture, et puis il n'a pas beaucoup de moyens pour corrompre et puis faire passer corrompre les services de la douane, c'est souvent les grandes personnalités qui sont dans les sièges politiques, qui sont à la base de cela, et des grands commerçants qui collaborent généralement avec eux. Deuxième problème, il ne faut pas avoir honte de dupliquer les modèles qui marchent ailleurs. Si vous traversez la frontière congolaise, même à Loufou, du côté de l'Angola, il y a de l'ordre plus qu'à RDC.
On vous garde en ligne, oui. Parce qu'on va écouter le flash d'information de Radio Capi dans quelques secondes. On vous garde en ligne, on revient à vous. Et Urbain Ilunga, gardez la ligne. On est à vous après quelques deux minutes de flash d'information de Radio Capi. Merci pour le flash d'information de Radio Capi. Bintou, avant le flash, on était avec vous. Vous êtes en train d'énumérer les trafics d'influence, on peut dire le rôle de responsabilité politique dans cette fraude douanière par le fait qu'ils favorisent les grands commerçants, soit ils sont eux-mêmes à la base quand ils font passer leur importation sans pour autant payer la douane Bintou.
Oui, c'est ce que je disais, M. Pierrot, parce que si les responsables lui-même payent, et les petits peuples ne pourront pas faire autrement. Donc l'exemple vient d'en haut. Comme disait Anthony Dizinga, que le poisson ne peut pourrir que par la tête. Alors, je disais, le deuxième problème, c'est qu'il faut dupliquer les modèles qui marchent ailleurs. Si vous traversez la frontière congolaise, même à Loufou du côté de l'Angola, il y a l'ordre plus à RDC. Une fois que tu payes, tu as le faiseur de ces services et tu as le faiseur juste à la réalité. Tandis que chez nous, au Congo, lorsque
toi tu payes, les prêts exigés par l'État, en quittant ce service-là et en quittant ce service que vous attendez. Même s'ils n'ont pas le droit de récupérer quelque chose sur ce service-là, il faut au moins mettre de côté l'argent pour leur donner pour les cigarettes, pour de l'eau, pour la cigarette, ainsi de suite. Alors, le troisième élément qu'il faut ajouter, c'est les responsables ne se plaignent pas. Moi, je ne peux pas accepter que les ministres, que les présidents, que les DG de la DGDA puissent se plaindre. Non. Même, ils ne peuvent pas se plaindre puisque ils sont des responsables. Il a les contacts de tous les services de sécurité et les services les services judiciaires. Il peut seulement faire appel à ces services-là pour arrêter la fraude et puis mettre fin à ça. Il est responsable de ce plein, il doit agir. Sinon, apparemment, tous les communes sont en train de se plaindre. Il va agir et il va trouver des solutions.
Merci beaucoup, Bintou. Et là, vous avez cité un estimant que ça soit le ministre de l'économie, ça soit le DG de la DGDA, ils n'ont pas à se plaindre, ils n'ont qu'à à poser des actes, cela veut dire saisir la justice pour que les dossiers soient examinés, que des enquêtes soient menées et que des coupables soient punis, mais on ne peut pas se plaindre. Merci beaucoup, Bintou. On retourne ici à Kinshasa, professeur Robert, vous êtes à l'Université de Kinshasa. Bonjour, professeur, et bienvenue.
Bonjour, mon ami. Je salue tous les auditeurs de l'Orcapi.
Vous avez suivi dans ces débats, comme le disait Urbain, ces techniques politiques. Cela veut dire qu'on se retrouve au centre d'une ramification des efforts qui doivent être conjugués au niveau de notre société pour arriver vraiment à bout de cette question de fraude.
Oui, bon, moi je pense qu'il faut. Nous avons déjà parlé de cette fraude douanière ici. J'avais donné l'exemple de Matadi, où nous avons des douaniers qui sont nantis. Quand vous entrez à travers Matadi, les beaux bâtiments, les hôtels, tout ça, ce sont des propriétés des douaniers. Alors, c'est dire que ces gens, c'est une fraude tout à fait caractérisée. Alors, si l'autorité hiérarchique constate toute cette fraude, ben, elle doit prendre toutes les mesures utiles. Je comprends que Mme de Boston, Mme Brigitte, a bien parlé. Il faut bien payer les gens d'abord. Il faut bien payer les gens. J'avais parlé de l'équation managériale de la motivation. À plus forte motivation correspond à un plus fort rendement. À moyenne motivation correspond à un moyen rendement. Et à faible motivation correspond à un faible rendement. Ça signifie que si ces jeunes gens étaient bien motivés, ils protégeraient le pays. Et si vous prenez même toutes les régies financières ici, c'est la même chose. C'est une gangrène qui attaque les régies financières. Et moi, je pense qu'il faut prendre prendre les choses au sérieux et demander aux hiérarchies respectives d'organiser ces sociétés et de permettre au pays de rentrer dans ces recettes. Parce que quand on manque de l'argent partout, ça signifie qu'il y a quelque part des hémorragies. Alors ces hémorragies, il faut les boucher pour que nous puissions, d'ailleurs, le président Kabila avait même dit que les régies financières du Congo ressemblent à une calebasse trouée. Donc, quand vous y mettez de l'eau, ça sort de part et d'autre.
Il faut trouver comment bouger. Merci beaucoup, professeur. Rappelons quand même 21 millions de dollars occasionnés par cette fraude à Mahagi. C'est une forme colossale. Urbain Ilunga, vous êtes avec nous.
C'est dommage. À Matadi, n'en parlons pas.
Oui. Urbain Ilunga, vous êtes avec nous, je crois. Dommage qu'on a perdu Urbain Ilunga. Tout à l'heure, on est en train d'expliquer dans cette émission. Professeur Robert est revenu sur le problème de mesures concrètes qui doivent être prises en soutenant la position de Mme Josephine tout à l'heure qui proposait l'amélioration des conditions de travail de ceux qui sont de la douane. C'est une façon aussi de pouvoir le motiver. Mais au-delà de tout, quand on parle de la fraude en comparant les trains de vide, ceux qui s'occupent des régimes financiers, Félicien le disait tout à l'heure, vous avez dit des beaux bâtiments, des belles maisons, ou bien, ça dit que au-delà même de ce que quelqu'un peut gagner, cela veut dire qu'il y a une forme de fraude. Il faudrait à un certain moment qu'on puisse mener des enquêtes pour savoir ce qui se passe. Merci beaucoup, professeur Robert Al-Boumbachi. Raphaël, vous êtes avec nous. Bonjour, Raphaël.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute, Raphaël, on vous écoute. On est en train d'expliquer, bien sûr, dans cette émission. Vous avez suivi les uns et les autres. Pour vous, d'une manière plus efficace, qu'est-ce qui doit être fait?
Ce qu'il faut faire, c'est la douane lui-même. La douane lui-même est exagérée.
Oui, Raphaël, on vous écoute.
Il faut qu'on supprime les taux. On nous donne à 38% quand vous amenez votre marchandise à la douane. On vous facture à 38%. C'est là où il y a la corruption. Si on met très bien la douane, on ne peut pas corrompre. Le problème, c'est la douane lui-même est exagérée.
Mmh. Si on l'a toujours dit, et plusieurs personnes ont évoqué cela dans Parole aux auditeurs, Raphaël, vous estimez que on a la douane la plus chère, comme les gens les répètent souvent quand nous organisons les débats, et vous estimez qu'ici, les prix au niveau de la douane sont abordables, et il y a moyen que les gens puissent échapper à la corruption et qu'ils ne soient pas tentés, bien sûr, à recourir, à décimer, détourner. Merci beaucoup, Raphaël. On revient à vous, Urbain Ilunga. On a suivi les uns et les autres. C'est une question préoccupante quand même, parce qu'il s'agit de faits qui échappent au trésor public par cette occasion de la fraude. Et vous avez martelé sur la réponse du système d'une manière globale. C'est de cette façon qu'on peut arriver à lutter efficacement contre la fraude. On vous écoute, Urbain, pour terminer cette émission.
Bon, merci beaucoup. Je félicite les interventions des uns des autres. Vraiment des patriotes qui réfléchissent et qui ont essayé d'apporter un plus à cette émission. Vous voyez que tous les intervenants sont revenus sur le même concept. Il y a des concepts qui sont revenus, du moins chacun en parlait. Il y a le concept, par exemple, de la complaisance, l'impunité, la complicité, le trafic d'influence, tout ça. Et le manque de leadership, il y a même la dame qui a ajouté à le problème des conditions du personnel douanier. Et donc, vous voyez que tous ceci mis ensemble, ce sont des ingrédients qui font la force de la fraude, qui favorisent la fraude. Et ça ne touche pas que le secteur douanier, mais aussi autres secteurs, c'est-à-dire tout le système dans son entièreté. C'est ici que j'interpelle les autorités qui nous écoutent. Si vraiment on peut avoir l'amour de ces pays, donc bannissant la complaisance, et que le sommet de l'État fonctionne, parce que là, ça prouve que les sommets, il y a des failles, il y a des défaillances au niveau du sommet, parce que déjà, le problème de ces fléaux touche déjà les sommets lui-même, les sommets du sommet jusqu'en bas. Donc, si la tête fonctionnait, je crois que les autres pouvaient suivre facilement. Donc, ça, là, je parle aux autorités. Le problème de la complaisance. Vous voyez que tous ces problèmes ne touchent pas. Le petit peuple, comme l'un des intervenants venait de dire aussi, n'est pas vraiment trop compliqué. Le peuple subit et n'est que victime, ou en fait respecte. Mais ce sont de gros poissons et qui chapeautent la nation, qui sont dans toutes ces choses, qui sont dans l'impunité, qui sont dans la complaisance, qui sont dans les trafics d'influence, qui sont dans toutes ces choses. Et ce sont eux qui tuent le pays. Donc le Congo a besoin d'un vent nouveau. Le Congo a besoin d'un vent nouveau. J'ai clôturé par là, le Congo a besoin d'un vent nouveau.
Merci beaucoup, Urbain Ilunga. Ça a été le vœu exprimé tout à l'heure par Félicien qui estime qu'il faut une nouvelle façon de voir, de concevoir, de lutter contre les impunités, de lutter contre la corruption. Vous pensez aussi, comme lui, qu'il faut renouveler la conception et les systèmes. Merci, vous avez été nombreux à placer votre mot dans cet échange consacré à la lutte contre la fraude douanière. Et aussi les débats, comme je le disais tout à l'heure, C'est poursuivi sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Merci à Urbain Ilunga et à tous les autres intervenants, honorable John Tidanzabo, qui nous a appelé de Bounia pour faire les témoignages autour de cette question de la faute douanière dénoncée au niveau des Mahadi. Merci à M. Flory, merci à tous les intervenants. Vous avez été nombreux, Madame Joséphine, avec votre contribution, ainsi que professeur Robert et tous les autres qui sont en ce moment même en train de débattre ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Nous vous disons merci pour votre sympathique attention et surtout votre attachement à ces magazines d'échange et citoyens.
Allô? 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 Qui ne répond pas?
Merci à toute l'équipe qui nous aide à produire ce magazine. Jean-Claude Sialat était à la mise en onde, Julie Pézabongonda était au standard et à la réalisation. Firo et la Meji vous l'a présenté sous la supervision de Julien Namouini. Par nos auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net. Mais l'émission aussi en rediffusion à 20h30, heure de Kinshasa, à 9h, bien sûr. Merci. Et surtout, le programme continue sur Radio Capi avec tous les plaisirs possibles. Ne vous déplacez pas, on est avec vous. Thank you.